Bonsoir et bienvenue
à tous dans cette émission mondiale 2026. Les Léopards se sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition dimanche dernier en battant l'Ouzbékistan 3-1 à Atlanta aux États-Unis. La RDC avait commencé par encaisser à la 10e minute de la partie sur un lob du gardien Lionel Mpassi après hésitation de la défense congolaise à intervenir sur l'attaquant ouzbek qui avait réussi à se retrouver avec les ballons sur les côtés de la surface de réparation. La RDC a alors renversé le sort du match en marquant 3 fois en deuxième mi-temps. 2 fois grâce à Johan Wissa à la 68e et à la 99e minute du match. Mais aussi grâce à Fiston Mayele qui a marqué à la 78e minute de la partie. La RDC jouera son match du deuxième tour du mondial le mercredi 1er juillet contre l'Angleterre. Quel est-il faire de la victoire de la RDC face à l'Ouzbékistan et à sa qualification au 16e de finale de la Coupe du Monde 2026? Et comment entrevoyez-vous le match des Léopards contre l'équipe d'Angleterre? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir et nous recevons dans cette émission en ligne Pierre-Célestin Kabala-Monamboui, il est analyste sportif et président de l'Association des journalistes sportifs du Congo. Bonsoir Pierre-Célestin Kabala-Monamboui.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux amis et aux auditeurs.
Et aussi en ligne, André-Michel Essungu, il est ancien journaliste et fonctionnaire international. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et cofondateur d'un incubateur qui se consacre au sport en Afrique centrale. Bonsoir André-Michel Essungu.
Bonsoir, c'est un plaisir d'être en votre compagnie.
Un plaisir partagé. Et ici au studio, Delphin Kikuni, il est ancien vice-président de la Linafoot et analyste sportif. Bonsoir Delphin Kikuni.
Bonsoir cher Mathé, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi et surtout les sportifs congolais.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
C'est un exploit historique pour la toute première fois de son histoire. La République démocratique du Congo a décroché son billet pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Congolais ont dominé les Ouzbeks sur les scores de 3-1 à Atlanta aux États-Unis lors de la 3e et dernière journée de la phase des groupes du groupe K. Les explications avec vous, Blaise Nongala Mayanda.
C'est à la 10e minute de jeu que l'Ouzbékistan a ouvert les scores grâce à son attaquant Chomourodov. L'arbitre a renvoyé les 22 acteurs au vestiaire sur cette petite avance de l'Ouzbékistan. Au retour de la pause, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a renforcé la ligne offensive avec l'entrée de Fiston Mayele et Meshack Elia. Ce coaching a payé à la 68e minute de jeu avec les pénalties transformées par Johan Wissa. Les Congolais ont maintenu la pression sur leur adversaire avant de prendre l'avantage au Marquois grâce à la réalisation de Fiston Mayele qui, après une frappe détournée de Meshack Elia, a réussi à tromper les portiers ouzbeks. À la 90e minute de jeu, Johan Wissa a marqué le but du break, signant ainsi son doublé dans cette rencontre. Cette qualification a provoqué la joie des Congolais qui désormais croient à la poursuite de l'aventure de leur pays à cette Coupe du Monde.
Au début c'était un peu compliqué mais après ça s'est bien passé. Et avec les joueurs qui sont là, l'équipe est vraiment très bonne et on aime beaucoup. Cette équipe peut aller encore loin.
Les Léopards terminent ainsi avec 4 unités, synonyme des meilleurs 3e de cette phase de groupe. La RDC va croiser l'Angleterre en 16e de finale de cette compétition. Dans l'autre affiche du groupe K, le Portugal et la Colombie se sont neutralisés sous les score de 0 but partout. La Colombie termine première de la poule avec 7 points, suivi du Portugal, 5 unités et la RDC ferme les tiercés gagnants avec 4 points.
Merci à vous, Blaise Ndongala Mayanda. Une liesse totalement légitime s'est emparée de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi, de Kisangani, de Mbandaka, de Bukavu, de Kananga, ainsi que de toute la diaspora après la qualification historique de Léopards de la RDC en 16e de finale de la Coupe du Monde. Beaucoup de Congolais attribuent cette victoire au coaching payant de l'entraîneur Sébastien Desabre et croient que la RDC va laisser des empreintes au cours de cette Coupe du Monde. Suivant leurs différentes réaction au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Je suis très émue en tout cas, je suis très contente, je suis fière d'être congolaise. En tout cas, la RDC est le point marquant.
Oui, on a gagné, on est dans la joie, on est dans la joie parce que ça fait 52 ans qu'on n'était jamais parti jusque là. On est aujourd'hui, la Coupe du Monde est pour nous.
Je n'arrive pas, mais tu veux, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mais tu veux, parce qu'il est fait pitié au salut, finis-vous.
L'émotion est immense, je suis fier de mon équipe. Malgré tout le stress qu'ils nous donnent depuis une match, voir les changements que le coach a effectués, qui ont payé. L'Angleterre, c'est pas un problème. Donnez-nous même la France, on va gagner.
Au début, c'était un peu compliqué, mais après, ça s'est bien passé. Et avec les joueurs qui sont là, l'équipe est vraiment très bonne et on aime beaucoup. Cette équipe peut aller encore loin.
Écoutez, c'est une joie pour tout un pays qui a été absent pendant 52 ans, un pays et qui jusqu'aujourd'hui continue à subir des conflits à l'Est. Mais aujourd'hui, les 26 provinces sont alliées. C'est vraiment une joie et on espère qu'on va affronter l'Angleterre et on va faire une joie.
Je suis très contente. Monsieur, reprenez mon émotion, s'il vous plaît. Oui, c'est comme un rêve. On ne savait pas qu'on va arriver jusqu'à ce point. C'est vraiment comme un rêve.
Voilà, c'est effectivement une grande fête. Pierre Célestin Kabala Mwanambui, vous êtes analyste sportif et président de l'Association des journalistes sportifs du Congo. Que vous inspire cette victoire des Léopards face à l'équipe d'Ouzbékistan par 3-0?
Ça m'inspire le respect et surtout le revers du géant. La RDC était bloquée dans une sorte de commotion cérébrale en se sous-estimant et en développant un complexe d'infériorité devant ses adversaires par le fait qu'elle est restée longtemps au banc de la communauté footballistique, manquant d'expérience et en se disant qu'il ne pouvait plus être capable de faire quoi que ce soit. Également enfermé dans une conception de doute, en disant jamais oser, se contenter du peu, limiter les dégâts, advienne que pourra. Mais vous avez remarqué que il y a eu ce que moi je peux appeler une sorte de révolte des enfants de la RDC qui ont compris qu'ils avaient les mêmes arguments, qui développaient les mêmes valeurs que les autres jeunes du monde avec lesquels ils ont partagé les centres de formation, les initiations et les conceptions du football moderne. Et vous avez remarqué qu'après avoir été enfermés dans une tactique de conservation et de doute, ils se sont révoltés en deuxième période et ils ont laissé exploser leur talent. Voilà le sentiment que cela me laisse, c'est que la jeunesse est capable de beaucoup lorsqu'elle prend conscience de ses valeurs, lorsqu'elle prend la mesure de ses possibilités, et lorsqu'elle peut savoir que dans la compétition sur le plan mondial, elle a les mêmes arguments que les jeunesses du monde.
Voilà, vous avez dit que l'équipe congolaise s'est pendant longtemps sous-estimée, mais à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir, n'est-ce pas, déclenché ces déclics qui fait que, voilà, aujourd'hui, la même équipe qui semblait, n'est-ce pas, c'est sous-estimé aujourd'hui, elle est capable d'affronter les grandes équipes.
Vous savez que tout est fonction de la stratégie de la conception de l'entraîneur. J'ai observé personnellement que l'entraîneur est parti à la Coupe du Monde avec une idée, délimiter les dégâts. Il n'a jamais pensé qu'on pouvait aller loin. Et quand on parle, on se dévoile. Dans son langage, il a toujours eu beaucoup de révérence pour les adversaires. Chaque fois qu'il parlait, je suis dans un groupe avec des gens qui ont de bonnes performances, qui sont mieux alignés sur le plan du classement, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit parfois, la vie et la mort sont au bout de la langue. Et lorsque vous avez développé un complexe d'infériorité, cela s'est traduit dans votre comportement de tous les jours. Mais je remarquais une sorte de réaction des enfants qui se sont dit non, mais ceux qui sont devant nous sont les mêmes que nous affrontons dans les compétitions en Europe et avec qui nous avons passé des cours dans des centres de formation et nous avons connu peut-être les mêmes entraîneurs là-bas. Et que je dis, qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours dans le carcan de l'autodéfense au lieu de faire l'offensive? Et vous avez vu qu'après avoir fait sauter le verrou de ce que moi j'ai appelé les pilotes automatiques ou les sénateurs, eh bien, les enfants se sont dégagés. Ils ont laissé parler leur talent profond et leurs valeurs individuelles et collectives. Voilà.
Oui, comment vous comprenez la stratégie mise en place par les coachs hein? Lors de ces matchs contre l'Ouzbékistan, dès le début, n'est-ce pas, du match, l'équipe congolaise s'est projetée vers l'avant et la stratégie a porté des fruits. Une stratégie, n'est-ce pas, que les coachs n'avaient jamais utilisée dans aucun match. Est-ce qu'on peut dire que avant les matchs contre l'Ouzbékistan, les coachs des SAV ne voulaient pas que l'on marque beaucoup de buts? On peut le dire ainsi?
Non, le coach avait compris que les gens voulaient absolument. Le football, qu'est-ce qui crée l'ambiance et la passion dans le football? C'est les buts. Il faut savoir marquer. Mais son problème, c'est le dispositif qu'il avait mis sur le pied et les éléments qu'il avait utilisés pour ces dispositifs-là. Ce que moi, je peux appeler les pilotes automatiques. Pourquoi garder les mêmes éléments qui ne sont plus dans l'intelligence et dans la philosophie de l'offensive? Ou alors, quelque peu grisé par le fait d'avoir beaucoup donné. Allez, et je constatais personnellement, je l'ai dénoncé, bien qu'à distance, je me disais que la présence de Bakambu à côté de Wissa, eh ben, l'un ou l'autre distribuait ou distillait une énergie négative envers son prochain. Il fallait que l'un soit écarté au profit de l'autre. Et vous avez vu quand c'était là. Et puis je me disais, qui est l'animateur dans cette attaque? Qui peut amener la fraîcheur? Et qui peut faire varier le jeu en jouant verticalement et puis en pointe, en distinguant celui qui devait faire le fixing devant le gardien de but? Parce que les rôles étaient confondus dans les qualités de chacun de ces éléments qui étaient alignés en attaque. Et vous avez vu qu'avec des garçons comme Meshak Elia, avec surtout l'entrée de Kalala Mayele, c'était un perturbateur. Moi, je l'appelle voltigeur. Il a perturbé la défense ouzbek, et voilà ce qui a permis à notre buteur Ouissa de pouvoir se retrouver dans ses convictions personnelles et dans ses expressions corporelles.
Merci André-Michel Sungu, vous êtes ancien journaliste et fonctionnaire international, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont un sur l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et vous êtes également cofondateur d'un incubateur qui se consacre au sport en Afrique centrale. Quelle lecture vous faites de la victoire de la RDC face à l'Ouzbékistan, tout en indiquant, n'est-ce pas, qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la toute première victoire de l'histoire de la RDC en Coupe du Monde?
D'abord, on en est très heureux. D'autre part, c'est une victoire largement méritée. Certes, la RDC a commencé le match de manière difficile, mais la RDC a pris l'habitude de commencer des matchs de manière parfois difficile, y compris en qualification face au Sénégal à domicile. Mais elle nous a aussi montré, cette RDC, sa capacité à revenir dans des matchs ou à tenir le match. Donc, en réalité, la RDC était favorite de ce match et peut-être que des fois, être favori vous joue un tour, et c'est ce qui a pu lui arriver. Et surtout lorsqu'elle a concédé le but, simplement, elle a démontré qu'elle avait suffisamment de qualité de son côté, bien meilleure que l'Ouzbékistan après tout. Et la victoire est au fond logique lorsqu'on voit ce que l'équipe a été capable de démontrer. Le confrère plutôt parlait des choix de l'entraîneur et des propos surtout de l'entraîneur. La tenue avant le match publiquement et de la manière dont la RDC a joué. Je veux juste noter, et Joseph Antoine Bell, qui est souvent commentateur de plusieurs matchs et qui a son podcast depuis quelques temps, notait que les entraîneurs de football ont souvent l'habitude de dire une chose en public et de dire une autre à leurs joueurs en privé. Donc, qu'un entraîneur de sabre dise que les autres équipes sont plus fortes ou les présentent avec beaucoup de respect, sur la place publique, ce n'est pas forcément la pire des choses. Il est, d'une certaine manière, en train de gérer la pression et de préparer ses joueurs, probablement en tenant un autre discours. Je pense que sur le terrain, la RDC a démontré à chacun de ses matchs qu'elle ne craignait aucun de ses adversaires, qu'elle pouvait rivaliser avec chacun, n'oubliant quand même pas le match nul imposé au Portugal dès le départ. Donc la victoire, en réalité, était, à mon sens, contre l'Ouzbékistan, logique. Elle est bienvenue. Lorsqu'on dit que la RDC n'a pas gagné depuis 52 ans, depuis sa première participation, ça paraît si lointain et ça paraît en réalité juste, donc on est content pour elle.
Et que pensez-vous de la qualification de Léopard au 16e des finales de la Coupe du Monde 2026, en précisant aussi que c'est sa toute première qualification au deuxième tour, n'est-ce pas, dans une telle compétition?
Alors, première chose, pour l'histoire, c'est une très bonne nouvelle. La RDC se qualifie comme 8 autres équipes africaines à un deuxième tour de Coupe du Monde. Maintenant, il faut mettre un petit guillemet autour de tout ceci. Le deuxième tour de la Coupe du Monde, nouvelle formule avec 48 équipes, est différent de la Coupe du Monde d'avant, évidemment. Et des équipes africaines, dont la RDC, se sont qualifiées au détriment, en général, d'équipes qui leur sont inférieures. L'Iran, l'Ouzbékistan, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite sont des équipes inférieures à des équipes comme la RDC, le Ghana ou le Sénégal. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Et celle qui commence se joue en un match face à l'Angleterre, ou même si ça avait été n'importe quel adversaire, la RDC a ses chances. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un match de coupe, et qu'en match de coupe, la seule chose qui importe au bout, c'est le résultat. Elle a démontré en imposant le nul face au Portugal qu'elle peut jouer avec des gros et tenir son bout. Et pour son bonheur, le Ghana a démontré il y a quelques jours, en tenant l'Angleterre à un match nul 0-0, on pouvait tenir cette Angleterre et on pouvait même probablement la battre, puisque le Ghana a eu l'occasion en fin de match notamment d'un penalty qui lui a été refusé justement. Donc c'est un autre match qui commence, une autre compétition. Il est probable que dans ce match contre l'Angleterre, la RDC n'ait pas le ballon, ce n'est pas grave. On gagne des matchs sans avoir souvent le ballon. Qu'elle soit menée, c'est une possibilité. Il n'est pas exclu qu'elle puisse revenir, comme elle nous l'a montré. En tout état de cause, la RDC peut se dire que, comme toutes les équipes africaines, pour la plupart à cette Coupe du Monde, mais comme les équipes d'avant, je pense au Maroc, je pense au Ghana, je pense au Cameroun, ils vont partir comme par favoris, mais ils ont tout à fait la possibilité d'aller plus loin. Le Cameroun n'était pas en 90 face à l'Argentine de Maradona. Le Maroc n'était pas en 2022 face à plusieurs adversaires, et le Ghana non plus ne l'était pas lorsqu'il est arrivé en quart de finale. Donc la RDC a son coup à jouer, elle a démontré, elle a des joueurs qui, comme le notait le confrère avant, jouent en Europe, jouent avec certains de ces joueurs qu'ils vont rencontrer. Wissa a quand même brillé depuis quelques années au championnat anglais, il n'a aucune raison de regarder les Anglais en face de lui et se dire qu'il ne peut pas passer, il a marqué face à certains de ses défenseurs, et quelques autres également joués à ce niveau-là. Donc, pour moi, ce match se joue vraiment à très peu de choses, à la capacité de la RDC à tenir, à souffrir, et à pouvoir faire mal quand elle en aura la possibilité.
André Michel Essungu, l'Afrique a eu les taux, n'est-ce pas, de réussite les plus élevés par rapport à tous les autres continents. On a vu, c'est 9 sur 10. Et cela peut être attribué à quoi, André Michel Essungu?
D'abord, je ne veux pas m'emballer, et contrairement à beaucoup de gens qui trouvent ça historique, je trouve que c'est rien du tout. Et voici ma justification. Les équipes qui ne se sont pas qualifiées en dehors de l'Uruguay et dans une certaine mesure la Corée du Sud sont des équipes qui sont inférieures individuellement et collectivement aux équipes africaines. Comme je le disais, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan n'ont pas le niveau d'aucune des équipes africaines. Donc, oui, on peut se satisfaire qu'on soit passé, mais nous sommes passés si nombreux parce que la formule a changé, en vérité. Et nous sommes passés au détriment d'équipes qui sont en dessous de nous. Maintenant, la compétition, le deuxième tour qui a commencé, est peut-être le véritable test de ce qui a changé ou n'a pas changé. Ceci étant dit, on connaît le niveau des équipes africaines, parce qu'on a des CAN tous les deux ans, et on a des Coupes du Monde. On sait très bien que dans le groupe de nos 10 équipes, il y en a 3 ou 4 qui sont d'un niveau supérieur. Je pense principalement au Maroc, je pense au Sénégal, les deux finalistes de la dernière CAN, sans doute la Côte d'Ivoire, sans doute le Sénégal. Pour les autres, et l'Égypte. Pour les autres, on est très content pour elles. Le Cap Vert va de miracle en miracle. Et donc, pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt pour tirer un enseignement sur une amélioration des performances des pays africains. Si, je répète encore, je suis très heureux que tant d'équipes africaines passent, mais elles sont passées comme il était attendu et espéré en raison du changement de la formule de la Coupe du Monde. Maintenant, même si toutes ces équipes passaient au prochain tour, est-ce que cela dit quelque chose du football africain? En partie. Il dit quelque chose du football dans certains pays. Au Maroc, en Afrique du Sud, en Égypte ou en Tunisie, depuis très longtemps, le football est à un certain niveau, les niveaux d'organisation des championnats nationaux sont au-dessus, c'est pour ça que nos équipes gagnent en club presque tous les ans. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui est changé, et dans notre région, l'Afrique centrale, dont je viens, moi, Camerounais ou les Congolais que vous êtes, force est de constater que le niveau du football n'est pas à son meilleur. Il y a une équipe de temps en temps, dans votre cas, le tout-puissant Mazembe, mais les championnats, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ces équipes ne reflètent donc pas le niveau de nos championnats, puisque que ce soit le Congo, le Cameroun, s'il en faisait partie ou d'autres, nos équipes sont essentiellement formées de diaspora, qui sont évidemment congolaises, camerounaises, aussi fiers que ceux qui grandissent au pays, mais elles ne reflètent pas le niveau de nos championnats.
Merci, Delpha Kikouni. Vous êtes ancien vice-président de l'Alinafoot et analyste sportif. Comment vous expliquez cette performance des Léopards lors de ces matchs contre l'Ouzbékistan?
Une meilleure performance. Je crois que à un certain moment, je crie à ça. Je crie à ce qui est arrivé. Je respecte un principe. C'est le destin. Lorsqu'on a devant son destin, on a deux possibilités. C'est soit qu'on sait qu'on a son destin à main, et en ce moment-là, on marche tête haute. Et chaque galère a un sens à ce moment-là, on se dit oui, peut-être c'est ça qui est arrivé, mais la victoire confirme qu'on avait son destin et qu'on était en train de le poursuivre. Mais un des avantages de ça, le risque, c'est que bon, tu te mets la pression, tu te dis que non, je crois que je vais y arriver, et là tu as la pression, tu dois y arriver, et peut-être qu'à un moment tu peux te dire que je me suis trompé. Mais moi, je préfère plutôt l'autre face, que on suit un chemin, c'est le destin, mais on se laisse devant les surprises. On se dit, bon, je peux être surpris, si ça marche, c'est mieux, tant mieux, et à ce moment-là, je vais comprendre que c'était mon destin. Et c'est la situation aujourd'hui de la RDC. Personne n'est en train d'attendre la RDC à ce niveau-là de compétition, à ce niveau de qualité de prestation. Personne. Personne ne pouvait parier, et on a vu, et dans les pronostics, que la RDC pouvait faire face à un Portugal très très construit, avec une équipe forte, avec des légendes, avec des stars du football mondial. Et personne ne pouvait penser que la RDC pouvait faire tête à la Colombie et perdre par un petit but, avec toutes les stars qu'il y a. Et même si après ces deux matchs, on a commencé à découvrir qu'on a un destin. On a un destin devant soi. Et que bon, on s'est dit, on y va, on essaie, et là, on croit. On croit et on ose, et quand on a osé, on a réussi, et aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui a existé? C'était le sens de la mesure de tous les temps. Et comme l'a dit le doyen Célestin, Kamala Malambouy, et moi, je vois plutôt positivement l'attitude du coach qui respecte ses adversaires, et ça, c'est seulement avoir le sens de la mesure. Il s'est dit, c'est la RDC qui, 52 ans, n'a pas été au rendez-vous. C'est la RDC qui, plusieurs fois, a perdu d'aller au Mondial à cause d'un petit détail. Et on l'a connu avec la Tunisie ici. On l'a connu avec le Maroc. Et maintenant, on l'a connu également avec le Sénégal. Donc, c'est cette équipe-là qui va aller jouer la phase finale de la Coupe du Monde. Et il doit avoir des ambitions, mais en même temps, il se dit, qu'est-ce que j'ai comme arme? Et il devrait évaluer ses armes. Évaluer ses armes par rapport aux adversaires et par conséquent avoir le sens de la mesure. Et je respecte l'attitude du coach et moi, c'est mon point de vue également, qu'on a eu le sens de la mesure, mais finalement, on a découvert qu'on avait notre destin. Et le destin, c'était de gagner ce match-là, je l'avais dit. On devrait gagner un match, on l'a fait. On est maintenant rassuré et c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions. Et moi, je crois que même en se posant des questions, on doit réunir les deux. On n'a pas la tête haute parce que il y a l'adversaire qui est en face de nous, mais on se dit également qu'il ne faut pas fuir les dangers. Il faut y aller. Parce que si on le fuit maintenant, il va nous rattraper. Donc c'est maintenant que je salue même qu'on affronte en début comme ça, des grandes équipes comme on l'a fait contre le Portugal, contre la Colombie, et maintenant là c'est l'Angleterre, peut-être qu'on va y arriver dans les débats. Donc on a devant nous à aller devant l'obstacle, à affronter l'obstacle, parce que l'obstacle il existe à ce stade de cette compétition, partout, ce sont des grands. Tout ce qu'on va rencontrer maintenant, ce sont des grands, et il faut y aller, c'est ce qu'on est en train de faire. Une surprise, certes, mais on avait des qualités, et je l'ai dit, que ces joueurs-là ont des ambitions, c'est d'abord eux. Ils le font pour eux-mêmes, pour l'histoire, pour marquer l'histoire. Maintenant, nous avons, oui, ça, avec 3 records, premier buteur des Congolais dans la phase finale de la Coupe du Monde, meilleur buteur congolais de la phase finale de la Coupe du Monde avec 3 réalisations déjà, et il a eu un doublé. Donc ils ont des ambitions, ils savent ce qu'ils recherchent, ils se disent pourquoi pas nous, et donc là l'histoire va finir par leur donner raison. Je pense qu'il faut respecter leurs ambitions et il faut les accompagner. Ce que j'apprécie, c'est que les Congolais n'ont pas de pression à mettre sur ces joueurs. Et on les laisse faire, on les laisse découvrir et nous ramener la joie. Et ça fait la joie de tout un peuple. C'est tout le monde qui est content de ce qui arrive, même si on s'y attendait le moins.
Alors, lors du match contre l'Ouzbékistan, on peut dire que la donne a changé lorsque Mayele et Meshak sont montés sur le terrain.
Oui, j'avais toujours dit que je respecte les décisions de l'entraîneur, du coach. Je respecte ces décisions. Parce que lui aussi également, il a un nom, il a l'histoire devant lui et il a des engagements. Et il a besoin de marquer également son histoire, même s'il peut être réservé, comme je l'ai dit tantôt. Mais il a fait la lecture de 2 matchs. Le premier match, on doit éviter de perdre profondément. On doit éviter l'histoire qui nous colle à la peau de ces 14 buts en phase de groupe. On doit éviter ça. Ça nous colle à la peau. C'est historique. C'est raconté. Et les enfants, de génération en génération, on parlera de ça. Il fallait éviter cela. On l'a fait. On a fait nul contre le Portugal. Le deuxième match, on a voulu faire quelque chose, mais on a fait face à un groupe qui était compact, qui était décisif, qui voulait y aller plus loin. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait plus rien à perdre. Parce que dans tous les cas, il fallait absolument marquer des buts. Et il fallait utiliser toutes les cartouches. Dans tous les cas, je vois trop de critiques et maintenant il a abandonné. Non, moi j'ai dit que ce soit Meshak, que ce soit Mayele, c'est le coach qui les a alignés, c'est sa liste à lui, donc c'est lui qui sait quels sont ses poulains, à tout moment il peut les tuer. Il a utilisé ces cartouches-là pour nous faire des buts et ça fait notre plaisir. Il fallait y aller, la décision était là de gagner ce match, il n'y avait pas de possibilité. La seule, c'était de gagner ce match-là et on est tombé sur un adversaire qui était déjà facile parce que déjà blessé et qui n'avait plus rien à gagner dedans. Qui nous ait marqué des buts, qu'il ait gagné tout ça. En tout cas, il n'était pas trop sûr de ce qui pouvait lui arriver. Mais au moins nous, on était sûr qu'à une victoire, on passait. C'est ce qui a été fait. Donc moi, je crois que je salue la décision de l'arbitre, ce remplacement qu'il a opéré, qui nous ont amené les résultats, comme on dit, seuls. La fin justifie les moyens.
Voilà. Est-ce que dans la configuration actuelle, il faut toujours commencer par Bakambu?
C'est pas une panacée. Comme je l'ai dit, Bakambu n'est pas seul. Il y a une liste. C'est pas une panacée. Mais on ne peut pas tout jeter sur Bakambu aujourd'hui. Parce que je crois que ce match, je l'ai suivi. Il a fait un travail énorme. Il a fait un travail énorme. Il fallait épuiser. Il a refusé cette fois-ci de tourner au dos. Et les tourner les deux au bois, parce que c'est ça son habitude. On a vu qu'il a menacé, Dame la Chance n'a pas souri, mais qu'on les remplace et que Maël vienne donner la victoire à la RDC, ce sont tous des Congolais, des joueurs congolais, Bakam a sa place dans cette équipe. Si il ne sait pas jouer, il ne sait pas commencer un match, il y aura un autre joueur qui pourra commencer. Et moi, je crois que je m'inclinerai devant la décision du coach.
Pierre-Célestin Kabanamanamboui, il y a Fiston Piana qui nous appelle depuis, qui nous écrit depuis Kalemie, dans les Tanganyika, depuis Kamina, dans la Haut-Katanga, qui dit des Sables doivent travailler sur la cohésion et la détermination des milieux de terrain. Il doit aussi responsabiliser certains bons joueurs tels que Chipenga, Mbuku, Meshak, que nous avons vu être excellents face à l'Ouzbékistan. Il doit surtout aligner les 11 de départ sur base du jeu de l'adversaire pour ne pas se faire avoir comme ça a été face à la Colombie. Pierre-Célestin Kabanamanamboui.
Merci Guy, et je dois dire à mon ami là-bas que je suis un natif de Kamina, hein, la base de Kamina. Mais, alors, ce que je peux dire, c'est que ben, l'entraîneur fait bien son travail, mais vous savez, parfois les entraîneurs se trompent sur des petits détails. Le joueur s'équivale, mais il y a des joueurs qui se plaisent dans un système donné, et dans les objectifs donnés. Et c'est ce qui arrive à notre équipe nationale. L'entraîneur qui ne veut pas être ridiculisé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses enfants, il faut faire attention, il faut pas nous ramener à l'histoire de 74 avec les 9 buts contre la Yougoslavie. Donc il faut jouer la défensive. Et les enfants sont enfermés dans ce carcan-là. Cela est parfois nécessaire dans certaines circonstances, mais dans d'autres circonstances, lorsqu'on a une ambition, on s'est dit, on est venu, c'est vrai, on a vu, mais on se rend compte que tout est possible, ben, mais on laisse les enfants s'exprimer. Bakambu, c'est vrai, il a beaucoup donné à l'équipe nationale, mais il faut dire aussi que beaucoup d'adversaires des Léopards connaissent bien Bakambu et son jeu. Vous avez remarqué que tous ceux que nous avons affrontés l'ont collé presque à la culotte et à chacun de ses mouvements, il gênait aux entournures. Et c'est pour cela qu'on dit à l'entraîneur, chaque fois qu'il voit que ça ne tourne pas, lorsqu'il veut absolument qu'on marque deux buts, mais il faut amener les enfants qui ont l'habitude de faire cela et qui ont encore la fraîcheur et qui ont aussi du talent pour le faire. Et c'est ce que je peux dire pour le moment, je crois, que quand on a une conception du jeu, on doit avoir les éléments qui s'adaptent à cette conception du jeu, mais quand on trouve que ça ne tourne pas, on modifie un petit peu, et le football, je le répète, la finalité, c'est le but.
Voilà, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Mutoshi dans la ville de Kolwezi au Lualaba, Pierre-Célestin Kabanamanamboui.
Moi c'est Dieudonné Bangui fils, hein, je vous appelle depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Sincèrement, en dépit de la récente qualification historique de nos fauves que nous saluons d'ailleurs, nous devons cependant être honnêtes, d'autant plus que nous ne pouvons pas cacher nos limites. D'abord, la sortie hasardeuse du gardien Passi et la petite distraction de notre défense nous ont mis en danger tout de suite, tôt à la 10e minute contre cette équipe ouzbek. Et à ce niveau, ça nous a coûté très cher. Ensuite, il faut parler du coaching. Le staff a mis du temps à réagir après l'ouverture du score. On a manqué d'un plan B clair à la première mi-temps. Là, il faut le dire. En tout cas, mercredi face à l'Angleterre, on n'aura pas le droit à ces erreurs. Il faudra plus de rigueur tactique, concentration et des choix forts. Monsieur Desabre est appelé d'un côté à mettre en place un plan défensif compact qui permettra d'arrêter net les Anglais et de l'autre côté, injecter dans les compartiments offensifs les ailiers percutants pour causer du fil à retordre à la défense anglaise, car il s'agit déjà d'une étape à éliminatoire directe dans laquelle étape sans but, le rêve s'arrête vite.
Oui, Pierre-Célestin Kabanamanamboui, vous allez réagir à cette réflexion-là, mais aussi, hein, comment vous entrevoyez le match de Léopard contre l'équipe de l'Angleterre?
Bien, ma réaction est la suivante. Je crois que l'entrée fracassante des Léopards n'avait pas tenu compte qu'il fallait en même temps assurer ses arrières. C'est ce qui était arrivé, on était pris de court. Peut-être qu'en entrant de jeu, Ils se sont dit qu'ils voulaient surprendre l'équipe qui paraissait très faible devant toutes les autres équipes du groupe. Ils se sont dit qu'il faut aller à fond. Mais ils se sont en même temps dégarnis, ils se sont découverts. Et ils ont été surpris d'ailleurs, c'est en compte, avec cette déviation qui a permis à l'Ouzbékistan de marquer son premier but. Et après, j'ai eu l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de déchets, qu'il y avait des ouvertures, qu'il fallait se recroqueviller et fermer. Ils ont fermé, comme les militaires l'appellent, fermer le banc. Ils l'ont fait. Bon, jusqu'à ce qu'ils ont calmé la première mi-temps. Et à la deuxième, ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument s'y qualifier. Et ils sont allés très vite en harcelant. Et grâce aux bons remplacements qui ont été effectués, et voilà que nous avons pu tirer l'épingle du jeu. Face à l'Angleterre, c'est vrai, grande nation du football, mais moi je le répète, actuellement j'observe que l'Afrique a approché le reste du monde dans la conception du football et dans sa praticabilité. Le Congo est en retard, évidemment. Quand vous allez au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs, le Maroc, particulièrement les pays du Nord, vous allez voir que ce sont les mêmes structures, que ce sont les mêmes organisations, avec le football qui commence à bas âge, qui est organisé dans les écoles et qui a des infrastructures indispensables. Et en plus, il y a un échange régulier entre l'Europe et ces Africains-là. Système de jumelage, d'échange, de parrainage. Et nous avons des enfants qui évoluent dans les mêmes circonstances que ceux qui sont en Europe et qu'on ramène en Afrique. Comment voulez-vous qu'ils soient inférieurs à leurs semblables européens ou d'ailleurs? C'est ça. Et nous, ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est ce fait-là, le mélange, même s'il n'est pas très élargi. Les enfants, vous avez dit tout à l'heure, vous avez suivi, Wissa qui a joué en Angleterre, comment voulez-vous qu'il soit complexé devant les joueurs anglais qu'il connaît? Et tous ces éléments-là qui comptent. Et ce que nous avons comme fierté, c'est cela, nous avons des enfants qui ont évolué là-bas, qui sont revenus, et qui jouent contre leurs collègues. Et c'est maintenant ce qu'il faut. Ce que là doit nous servir de rampe de lancement pour la réorganisation, la restructuration de notre football, pour que demain, après ce match contre l'Angleterre, quels que soient les résultats, j'espère qu'il ne sera pas ridicule et que nous sommes à mesure aussi de tenir tête à l'Angleterre, ça je le dis, je suis ferme, et qu'après on va s'en servir pour réorganiser notre football et avoir les conditions de ceux qui nous ont donné ces bonheurs-là, comme cela fut le cas en 68 lorsqu'on avait ramené les Belgiquins, ce sont eux qui avaient amené une nouvelle conception de fond de jeu et qui nous avaient porté bonheur à Addis Abeba.
Merci. J'ai dit que Kamina était dans les Okatanga, c'est plutôt dans les Lomami. André Michel Essungu, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu.
Lisiza Kulimu Chevariste depuis Bukavu, province du Sud Kivu. Ouf, car la baraka a payé cash du côté congolais pour la simple raison que le coach Sébastien Desabre, sans cette fois-là attendre qu'il soit tard, a pu aligner une attaque percutante réaliste constituée à majorité de ses attaquants longtemps gardés au banc de réserve, notamment Fiston Mayele, Chimpenga, Meshak Elia et d'autres d'appui ayant attisé l'énergie jusqu'à la victoire finale. L'approche de l'étape étant de la mort subite, l'entraîneur serait obligé, à mon humble avis, d'aligner la même attaque tout en diversifiant des tactiques, garder le moral haut tout en considérant ses joueurs anglais comme ordinaires car arrivé première de son groupe, mais ses buts marqués contre le Ghana, la Croatie et le Panama n'ont rien à faire d'elle, une foudre de guerre devant faire trop peur à une équipe congolaise en gestation. Allez-y les léopards.
André Michel Essungu.
Oui, alors je partage ce sur quoi l'auditeur a terminé. Allez les léopards. Pour le reste, je crois que l'entraîneur du Congo, de la RDC, a démontré qu'il connaissait et son équipe, respectait ses adversaires et savait faire les changements que beaucoup espéraient. Je crois qu'au fond, on est évidemment plus difficile avec son équipe lorsqu'elle perd, mais on voit bien lorsqu'elle gagne, elle s'en sort bien. Je pense que ce que dit l'auditeur est juste. Le Congo doit, la RDC doit regarder l'Angleterre comme un égal. C'est une attitude qui, heureusement, est devenue plus commune qu'avant. Le grand frère évoquait tout à l'heure les résultats de 1974. La plupart de ceux qui regardent la Coupe du Monde aujourd'hui n'ont pas vu ce match du Congo à la première Coupe du Monde. Mais on sait qu'à cette époque, les choses étaient plus compliquées, de sorte que lorsque le Cameroun va à la Coupe du Monde en 82, la peur est telle que pour le Cameroun à l'époque, il s'agit de ne pas perdre par beaucoup. Et donc le Cameroun s'en sort avec 3 matchs nuls et éliminé au premier tour. Et à l'époque, de retour au Cameroun, les Lions et Montagnes sont célébrés, alors que ce n'était que des matchs nuls. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. On voit le Congo l'emporter de manière convaincante face à l'Ouzbékistan. Il n'y a donc pas de raison que face à l'Angleterre, qu'elle ne joue pas sa partition. Mais je le rappelle encore, ce sera certainement un match différent parce qu'elle était favorite face à l'Ouzbékistan. Elle ne l'est pas face à l'Angleterre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas gagner le match. Et ne pas être favorite, c'est même pas très grave. C'est même probablement la meilleure des choses qu'on puisse souhaiter. Donc, comme d'autres, je pense qu'il faut faire confiance à l'encadrement des Léopards et espérer une belle performance dont elle est capable, quel que soit d'ailleurs le résultat du match à la fin. Ce dont on a probablement le plus envie encore, c'est que les Léopards nous fassent rêver, nous fassent honneur à tous, et ce sera déjà une belle chose de gagner. Et pourquoi pas qu'elle remporte ce match, c'est ce qui est possible. C'est un match à qualification, tout est possible dans ce genre de configuration.
André-Michel Essungu, il y a Nathan Bondonga qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit la qualification de la RDC à ce niveau de la compétition a non seulement réjoui tout un peuple, mais aussi prouvé à suffisance que nous pouvons faire quelque chose devant n'importe quel adversaire. Cependant, un peu de déchets techniques qu'il faut corriger, notamment la peur et la galerie. À votre avis, quels sont les facteurs, n'est-ce pas, qu'il faut élaguer pour permettre à cette équipe de défier, pourquoi pas, l'équipe anglaise?
Oui, beaucoup de facteurs comptent dans une compétition comme celle-là, mais en réalité, je pense que mon confrère a évoqué avant cela, tout à l'heure, la nécessité de donner à nos jeunes le même cadre qu'on trouve ailleurs en Occident, et c'est notamment cela que Kobo Sport essaie de faire, parce qu'en réalité, tout commence à la base. Vous savez, quand ils sont à la Coupe du Monde, il n'y a plus vraiment rien qu'on puisse faire. On n'entraîne pas une sélection nationale. Ce sont des professionnels, ils savent faire ce qu'ils ont à faire. On leur donne des conditions mentales et on les prépare physiquement au match et on les dispose d'un point de vue tactique. Mais pour le reste, ils sont préparés depuis des années. Ils sont préparés à ce genre de compétition. La différence souvent se fait par le fait que des joueurs anglais, par exemple, de cette équipe que le Congo va affronter, jouent au plus haut niveau tous les jours, pendant 9 mois, tous les ans. Donc Harry Kane joue au Bayern de Munich en Allemagne et Bellingham joue au Real Madrid. Et donc ils ont l'habitude de la grande compétition. Et en face, nos équipes n'ont pas souvent autant de joueurs qui sont à ce niveau-là. Ceci dit, ça vous donne, vous êtes en désavantage et c'est pour ça qu'ils sont favoris. Mais vous avez l'avantage que ce match se joue en 90 ou en 120 minutes et que physiquement vous êtes sans doute suffisamment prêt. Techniquement, vous n'êtes pas mauvais. Et il n'y a pas de raison que, ensuite, en fonction de comment le match a été abordé, que vous ne puissiez pas les embêter. En tout cas, le Congo a absolument ses chances. Et je le répète, il ne sera pas la première équipe africaine à affronter un grand du monde du football. Le Sénégal l'a fait, d'autres l'ont fait avant et d'autres ont gagné. Il n'y a pas de raison que le Congo ne puisse pas le faire. Ceci ne veut pas dire que le Congo va aller à l'abordage de la première minute et devra dominer l'Angleterre. Tous les matchs de football ne se ressemblent pas et respecter son adversaire, lui donner l'espace, c'est aussi souvent très bien comprendre le football. Et comprendre le football, parfois, dans certaines configurations, c'est accepter de souffrir, c'est accepter d'être dominé, mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément perdre, au contraire. On se parle là en ce moment et Le Japon mène la vie dure au Brésil tout en restant dans son camp en espérant l'emporter au cours du match. Donc le Congo devra probablement s'y mettre, mais il n'est pas exclu qu'il puisse... il est même à espérer en tant qu'Africain que le Congo passe ayant fait cela.
Merci Delphine Kikuni. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle de la ville de Kinshasa.
Bonsoir Radio Okapi, bonsoir également à tous les auditeurs et auditrices. Dédoné Chilombo de Kinshasa. Cette victoire nous a tous montré que les Léopards ont gagné en maturité mentale. Menés au score, ils n'ont pas paniqué. Ils ont su réagir avec caractère, efficacité et solidarité. Cette qualification historique prouve que la RDC peut désormais rivaliser avec les grandes nations du football mondial. Face à l'Angleterre, malgré qu'elle soit favorite sur le papier, mais en phase à élimination directe, tout est possible si les Léopards restent disciplinés en défense, exploitent les contre-attaques et jouent avec la même détermination, ils peuvent créer l'une des plus grandes surprises de ce mondial.
Delphine Kikuni.
Parfaitement d'accord avec notre auditeur. Donc, ça va se jouer en deux possibilités. Donc, c'est soit qu'on va bétonner, mais également, il faut prendre de l'audace. C'est seulement des possibilités qui restent pour les Léopards. C'est un match qui se joue, on ne peut que les gagner. Il ne s'arrête pas sans qu'il y ait un vainqueur. Et parce qu'il ne s'arrête pas sans qu'il y ait un vainqueur, c'est mieux d'ailleurs qu'on ait en face de nous une Angleterre favorite qui a 70%, je vis dans les statistiques, 70% des pronostics. Et c'est déjà bon, on a 30%, mais on joue. Donc l'Angleterre va jouer contre une RDC qui est en train de renaître. Pendant que l'Angleterre est en train de courir derrière son sacre de déjà 60 ans. L'unique fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est en 66. Et donc, nous avons été absents pendant 52 ans, mais nous sommes en train de renaître. Un enfant qui renaît, il a son destin, il a l'histoire devant lui, il dit « je peux ». Et nous sommes là pour perturber, donc la RDC va venir perturber, gâcher les fêtes. Donc,
je rappelle ici que vous aimez souvent, n'est-ce pas, insister sur l'expérience du Cameroun face à l'Argentine du célèbre Diego Armando Maradona en 90.
Oui, personne n'attend le Cameroun, personne. Et on a une Argentine qui est vraiment... qui gagne d'abord en 86 et qui a toutes ses stars avec, et après, bon, c'est contre le Cameroun qui n'est pas attendu, le Sénégal n'est pas attendu non plus en 2002, mais il va gagner la France. Donc, ici, je suis très sûr que si on garde le même moral, un moral très haut de ces joueurs-là qui ont des ambitions, ils l'ont démontré, qui ont un souci, ils l'ont prouvé. Et je crois qu'un peuple aussi qui a des attentes maintenant là, mais qui n'exerce pas la pression, je suis rassuré qu'on va troubler cette fête-là. Cette attente de 60 ans va se prolonger contre la RDC.
Voilà, Émile Kamwanga, depuis Kananga, dans le Kasaï central, il dit « Nous félicitons vivement nos Léopards qui ont réussi à écrire l'histoire avec des belles lettres. Nous suggérons au coaching de repenser leur vision, que les 11 soient aguerris, offensifs, cohérents et disciplinés. On ne va pas essayer les choses à ce stade, mais il faudrait être réaliste. »
Oui. Je pense que c'est ce qui va être fait. C'est ce qui va être fait. Le coach nous l'a démontré. Ici, on n'est plus en phase de groupe. C'est un match à élimination directe. Vous perdez, vous partez. Et nous n'avons plus aujourd'hui le souci de partir à ce stade-là. Heureusement que c'est chaque fois que nous dépassons une étape qu'on s'est dit c'était ça notre objectif. Quand on est en train d'y aller, l'objectif c'était d'être qualifié. Et ensuite, on va jouer en phase de groupe. Et on s'est dit, bon, c'était pour battre le Portugal, ou faire nul, c'est la fête pour nous. Et après, on découvre qu'on passe quand même, on est qualifié en 16e de finale. On n'a pas trop d'ambition. Maintenant, là, on va jouer contre l'Angleterre, qu'on respecte, bien sûr. Mais ce sont ces joueurs-là qui jouent contre l'Angleterre, qui jouent toujours contre nos joueurs. Ils ne sont pas extraterrestres. L'Angleterre, on l'a fait redouter, déjà par une équipe africaine. En phase de groupe, donc pour nous, nous sommes rassurés qu'on va jouer. Et je suis très respectueux de ces joueurs-là, ils ne paniquent pas, ils n'ont pas de complexe. C'est nous ici, c'est nous qui sommes dehors, qui avons des complexes. Mais nous, quand on les voit jouer, il joue sincèrement comme s'il était le meilleur de ce mondial. Ils l'ont prouvé. Les déchets, il y en a certes, et je pense que le coach va travailler là-dessus. La sortie hasardeuse de Passy nous a fait mal, très mal, pendant 60 minutes. C'est énorme. Et je pense que cette fois-ci, ils vont fermer, ils vont bétonner comme ils ont l'habitude de le faire, et après, ils vont pousser. Ils vont prendre de l'audace, ils vont déranger. Et si on a un but, je pense qu'on pourra bien gagner ce match.
Pierre-Célestin Kamara-Mouamoui, nous tendons vers la fin de l'émission. On va commencer à conclure. Hein. S'il vous est demandé, n'est-ce pas, de prodiguer quelques conseils aux joueurs, n'est-ce pas, des Léopards par rapport au match qui va les opposer à l'équipe anglaise, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment on peut faire pour maintenir, n'est-ce pas, l'intensité que l'on a montrée face à l'Ouzbékistan? Ou pourquoi pas, n'est-ce pas, augmenter davantage la pression face à l'équipe anglaise?
Je peux dire simplement qu'il faut avoir le sens et la mesure. Il y a les consignes de l'entraîneur, mais il y a aussi l'observation des joueurs eux-mêmes sur le terrain. Il faut qu'il y ait un meneur de jeu qui regarde la température, qui observe les forces de frappe et les faiblesses de l'adversaire pour dire aux autres, mes amis, nous accélérons, nous allons à fond. Je voudrais également dire à tous les spectateurs, c'est que les Anglais ont l'habitude de tirer à distance. Ils exploitent les espaces. Quitte à ce que notre défense puisse bien couvrir le gardien de but et n'est pas l'empêcher d'avoir une bonne visibilité en cas d'action offensive de l'adversaire. Et le milieu de terrain aura une grande charge parce qu'il aura, en même temps qu'il faut défendre, alimenter l'attaque et avoir une transition intelligente pour permettre à nos joueurs d'attaque de pouvoir prendre à défaut l'équipe anglaise. Le dispositif tel qu'il a été appliqué dans les matchs contre l'Ouzbékistan est bon. Peut-être qu'il faut commencer par Bakambu cette fois-ci pour que Musel, les défenseurs, avant de nous ramener à cette activité vertical de nos attaquants.
Merci.
En préservant Wissa.
Merci André, Michel et Sungu. Votre mot de la fin?
Bon, comme a dit un auditeur tout à l'heure, aller à la RDC et vraiment vivement qu'elle passe ce tour. On a pleine confiance et ce sera un autre bonheur comme celui que les plus vieux d'entre nous ont connu en 90, en 2002 avec le Cameroun, puis le Sénégal, puis en 2022 avec le Maroc.
Merci Delphine Kikouni. Votre mot de la fin, les pronostics, n'est-ce pas, par rapport au match qui nous attend contre les Anglais?
J'ai toujours été très réservé de pronostiquer, mais je dis le souhait le plus ardent, c'est qu'on gagne ce match. Ce sera soulager effectivement le travail qui a été effectué et par le coach et par les joueurs, ainsi que les attentes de cette population qui a souffert de l'absence pendant 52 ans de la RDC au Mondial, et espérer que l'élan est lancé définitivement et qu'on désormais on ne pourra plus être absent. On devra se faire douter de nous-mêmes.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Pierre-Célestin Kamara-Mouamoui, André Michel Essungu et Delphine Kikouni. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Donna Madimba et Benjamin Moudoumbi qui l'ont réalisé, et à Pierre Diassinois et Jean-Claude Ntiala qui étaient à la technique, à Chembe Lokou qui a assuré le live de cette émission. Merci aussi à Jean Gandou et Blaise Nongala qui ont contribué, n'est-ce pas, à la préparation de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.